karaté, je crois.
Ah oui, pardon. Et là, c'est genre la France sauvage.
La France sauvage.
France sauvage,
c'est
de Bordeaux.
Sauvage.
Et aussi, je crois qu'on a... Il me semble qu'on a entendu Gerashim Luka et le poème Passionnément.
Ah ouais.
On n'est pas bien, là.
C'est un peu chaud, je trouve.
Ouais. Yeah. J'ai l'impression que j'ai des nerfs dans les cheveux. Ouais. J'ai pas de cheveux.
Moi, j'ai soif.
Faut boire de l'eau, Sissi. Hein.
Merci, on me l'a dit.
Hydrate-toi, ouais. C'était la danse des micros sur Mayday aujourd'hui et on revient dans 15 jours.
15 jours, ouais.
15 jours.
Et on fait quoi? On fait le...
On fait le bilan.
Calmement.
Voilà pour la dernière émission de la saison.
Boum, dans un instant, c'est les infos.
Allez, restez sur Radio du Canu. Bonne soirée.
Ciao.
Bisous.
Salut.
Et joyeux anniversaire, Mouche.
Ouais,
ouais,
ouais.
Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonjour,
bonsoir,
bonsoir.
Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va parler de...
Après quelques brèves, on passera à ces histoires de pression sur la Cour pénale internationale de la part d'Israël.
Ensuite, on aura. Moi, j'ai pas les.
On aura le pacte migratoire européen, un nouvel outil pour lutter contre les droits humains.
Et puis, notre point quasiment traditionnel sur le Kurdistan.
Et avant tout ça, on commence par quelques brèves.
Par quelques brèves, il n'y a pas de musique de brève, mais c'est pas grave.
Il va y avoir une musique de brève, mais c'est comme
ça. Mais c'est pas grave.
Pas les retours.
ça se suffit, cette brève se suffit, elle n'a même pas besoin de musique. Donc alors, cette petite brève, c'est pour faire plaisir aux auditeurs et aux auditrices de moins de 8 ans. Et sûrement faire plaisir aussi aux trois vieux qui sont dans ce studio. Aujourd'hui, mercredi 29 mai, la Corée du Nord a envoyé des ballons en direction de la Corée du Sud. Ces ballons qui se sont écrasés, donc en Corée du Sud, pas loin de la frontière, étaient remplis d'excréments. On se doute que la Corée du Nord n'avait pas ratifié la convention contre les armes chimiques. Elle ne s'est donc pas mise hors la loi. On vit vraiment dans un monde de merde.
Putain, ça aurait pu nous faire une chronique de Laurent Mode de la Bouze, rien pour cela quand même.
L'école.
On a au moins une info qui nous a fait rigoler.
Pardon. Donc, l'école Audrey Hepburn, qui a été inaugurée dans le 9e la semaine dernière, a été. Il y a un petit problème de gain, je pense. Ouais, c'est ça. C'est
Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette école
c'est, de... c'est très original. Elle a été occupée pour mettre à l'abri un enfant de 3 ans et ses parents. L'État ne semble toujours pas vouloir prendre ses responsabilités. On compte environ 300 enfants et leurs familles à la rue. Et je voulais quand même souligner que depuis que c'est des mairies de gauche qui tiennent la ville, il y a beaucoup plus d'infos dans la presse quand il y a ce genre de truc. C'est vachement pratique. J'avais toute la presse lyonnaise a fait un article là-dessus. D'un seul coup, le collectif Jamais sans toi est adoré de toute la.
Même du Progrès, quoi.
Toute la presse lyonnaise. Ah, je suis pas allé vérifier sur le Progrès, mais il y avait quand même Lyon Cap, le truc où c'est à moitié un journal de flic, là. Lyon Actu, non, je sais plus.
Lyon Mag.
Non, l'autre encore, celui qui est vraiment juste.
Actu Lyon.
Ouais, ça va. Enfin bon.
Amnesty International a publié son rapport annuel sur le recours à la peine de mort dans le monde. Et suspense en disant, ce nombre a fortement augmenté. Il est même supérieur de 30% par rapport à 2022. De 23% par rapport à l'année dernière. Pourtant, le nombre de pays pratiquant la peine de mort n'a jamais été aussi bas. Alors, dans le top 5 des pays ayant enregistré le plus grand nombre d'exécutions dites légales, on trouve la Chine, l'Arabie Saoudite, la Somalie, les États-Unis et l'Iran. L'Iran, grand champion.
Donc en tête, hein. Là, t'as fait par ordre du 5e, 4e, 3e.
Non, il n'y avait pas d'ordre, juste j'ai fini par le premier. Je ne peux pas vous dire qui est premier par rapport à la Chine ou les États-Unis. Voilà. Mais effectivement. L'Iran représente à lui seul 74% de toutes les exécutions enregistrées. Et bien sûr, l'immense majorité des condamnés à mort en Iran sont soit baloutches, soit kurdes.
En octobre, rue 89, Lyon révèle que Jean-Michel Aulas, vous voyez qui c'est le Jean-Michel Aulas, c'est l'ex-grand patron de l'Olympique lyonnais, qui, avec son fils Alexandre Aulas, était l'un des cofondateurs d'un terminal de luxe réservé aux jets privés à Miami, qui a ouvert en février 2023. Étrangement, cette société, nous dit rue 89, qui opère sur le sol américain, est domiciliée à travers un tortueux montage de sociétés offshore qui relie les paradis fiscaux de Delaware, des îles Vierges britanniques et le Luxembourg. Résultat, l'ex-président de l'OL, Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, a déposé plainte, enfin début mai plutôt, contre rue 89. Et rue 89 Lyon s'est donc retrouvé au commissariat pour faire sa déposition. Je les cite depuis mai, la rédaction a appris que Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre ont donc porté plainte contre rue 89 Lyon pour diffamation. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais leur reproche une enquête parue donc en octobre, celle dont je parlais juste avant, sur ses investissements à travers plusieurs paradis fiscaux, dont ce terminal de jet privé à Miami, dont Jean-Michel Aulas est le cofondateur. Vu le patrimoine et la thune qu'a Jean-Michel Aulas et vu les difficultés financières rencontrées plusieurs fois par rue 89 Lyon, on peut dire que ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle des procédures bâillons à l'encontre de la presse, c'est-à-dire que quand un millionnaire, je connais pas ses comptes, mais ses comptes sont bien fournis à Jean-Michel Aulas, attaque un média souvent en difficulté financière, il espère non pas forcément gagner son procès, mais en tout cas faire couler le média à coup beaucoup de frais juridiques. En tout cas, on soutient Rue 89 Lyon et guettez peut-être s'ils vont demander un peu de pognon pour financer la procédure, ou en tout cas, abonnez-vous parce que c'est quand même un média chouette local.
Mais du coup, la diffamation, c'est d'avoir dit qu'ils avaient des... Pour qu'on soit bien sûr d'avoir compris ce qui est diffamant.
Ah bah ça, on laissera le tribunal voir exactement, mais c'est que du coup, ils disent que c'est faux, quoi.
Ah, ils disent qu'ils n'ont pas de montage financier qui...
J'imagine.
Ok.
Et alors moi j'ai une toute petite brève pour le c'est pas grave. On parlait donc de médias locaux un peu classe, puis il y a la presse de Caniveau, ça s'appelle lyonmag.com, qui a sorti un article. Ils ont sorti des tonnes après cette histoire d'agression dans le métro B au couteau. Là, vous en avez très certainement entendu parler. Je veux dire, même si vous n'étiez pas à Lyon, vous en avez entendu parler. Ah non, finalement, quand on vit à la campagne, non. Bref, donc il y a eu cette histoire et donc Lyonmag a pondu tout un tas d'articles sans aucun intérêt, mais ils ont quand même réussi à en pondre un qui s'appelle, je le cite, sous OQTF, virgule, quel suivi médical a pu recevoir l'assaillant du métro B à Lyon. Dans cet article, Lyon Mag se questionne sur comment ça se fait que donc une personne sous OQTF ait pu recevoir des soins médico-psychiatriques. Tout ça pour conclure que c'est grâce à l'AME.
Ah oui, ça aurait été dommage de ne pas lui donner de soins.
Tu veux dire qu'ils auraient préféré qu'il n'ait pas de soins médico-psychiatriques?
Ah, eux, ils sont neutres, ils ont interviewé des gens. Ils laissent ensuite les commentaires en dessous déchaîner leur haine.
C'est d'accord.
Ouais, pourquoi pas.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Alors, est-ce qu'on sait un peu ce qui se trame à la CPI?
Mais là, des histoires de malades. C'est une enquête du Guardian et d'un site israélo-palestinien qui s'appelle Plus 972.
Wow. Putain, comme ça, il l'a fait à l'improviste, il l'a pas écrit, j'ai vu.
Ouais, c'est vrai. Mais ceci dit, j'ai quand même pas lu l'enquête parce que c'était en anglais et extrêmement long. Mais j'ai lu sa synthèse dans Le Monde et dans l'Humain. Alors, je peux quand même un peu vous raconter ce qu'il y a dedans. Et cette enquête nous dévoile quoi? Nous dévoile que Israël, depuis déjà 2009, a carrément flippé de la Cour pénale internationale et a mis en place un sacré paquet de trucs pour faire en sorte que ni ses dirigeants ni ses militaires ne risquent d'être poursuivis devant. Et quand je dis un sacré paquet de trucs, vous allez voir que ça relève des romans de John le Carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça quand même n'a pas servi à grand-chose, puisque, on l'a dit, la Cour pénale internationale a requis la semaine dernière, le procureur de la Cour pénale internationale a requis la semaine dernière des mandats contre Netanyahou et contre son ministre de la Défense. Mais tout ça est donc un signe d'une sacrée résistance de ce magistrat et de son équipe. En tout cas, jusqu'à la dernière minute, Israël a tenté de dissuader Karim Khan de faire ça, en utilisant tous les leviers possibles jusqu'aux menaces personnelles, explique une source à la cour. Le procureur Karim Khan avait même publié un communiqué de protestation début mai, dans lequel il rappelle que l'entrave au travail de la CPI est passible de 5 ans de prison. Mais tout ça n'est donc pas du tout nouveau entre les services secrets israéliens et la CPI. Et l'enquête nous fait remonter à 2009 où pour la première fois, des envoyés de l'autorité palestinienne sont allés voir du côté de la CPI s'il n'y avait pas quelque chose à en tirer pour la situation des Palestiniens en Palestine et face aux forces d'occupation israéliennes. À l'époque, les responsables politiques et militaires israéliens se sont inquiétés que tout ça puisse déboucher sur des poursuites. Et quand la Palestine a obtenu son adhésion à la CPI en 2015, alors parce que la CPI a pu décider à ce moment-là de traiter la Palestine comme un État. Ça, c'est les subtilités du droit international que je ne suis pas tout à fait capable de vous expliquer, mais ça avait été possible. Donc en 2015, Israël a commencé à ce moment-là à prendre des mesures. Et donc ces mesures, selon l'enquête dont on parle, c'est Yossi Cohen, qui était le chef du Mossad de 2016 à 2021, qui a personnellement dirigé cette opération. Ce dernier, Yossi Cohen, aurait rencontré pour la première fois la procureure Fatou Bensouda, qui était donc procureur avant Karim Khan. C'est des mandats de 9 ans, être procureur à la CPI. Et donc maintenant c'est Karim Khan, mais avant lui c'était Fatou Bensouda. Il l'aurait rencontré pour la première fois lors d'un forum annuel de la sécurité à Munich en 2017. Yossi Cohen, après l'avoir rencontré, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est allé frapper à la porte de sa chambre directement sans se faire annoncer, ce qui ne se fait pas vraiment dans ces cas-là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, puis il a entamé la conversation avec elle, et puis il lui a montré une photo d'elle qui avait été prise pendant un voyage à Londres avec son mari. Elle aurait aussi été photographiée lors d'un déplacement complètement privé pour une histoire de... Bon, alors c'est des gens qui voyagent, hein, pour une histoire de voyage au Qatar, de mariage, pardon, au Qatar. Et il lui aurait dit « Vous devriez nous aider et nous laisser prendre soin de vous. Vous ne voulez pas vous engager dans des choses qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle de votre famille. » Enfin là, on est, c'est ça, tout à l'heure je disais qu'on était un peu dans John le Carré, mais on est aussi un peu dans Le Parrain, vous voyez, c'est ambiance comme ça là. Dans le même temps, les services israéliens traquent le contenu des pièces à charge qui sont apportées par les Palestiniens à la CPI. C'est-à-dire que tous les échanges privés avec des responsables palestiniens étaient régulièrement surveillés et très largement partagés entre tous les services de renseignement internationaux, mais en particulier israéliens. En 2016, Fatou Bensouda informe les États membres de la Cour que des responsables de deux organisations palestiniennes, qui sont des ONG de défense des droits de l'homme, qui sont plutôt des ONG comme sérieuses et respectées à l'international, une qui s'appelle Al-Haq et l'autre qui s'appelle Al-Mezan, que ces responsables ont fait l'objet de menaces, d'actes d'intimidation et d'interférence. Et bien sûr, tout ça a atteint une sorte de sommet en 2021 quand six ONG palestiniennes qui étaient en contact avec la CPI ont été tout bonnement déclarées terroristes par le gouvernement israélien. C'est à ce moment-là, par exemple, le directeur général de l'une de ces ONG, donc Al-Haq, avait expliqué au Monde « Nous risquons notre sécurité personnelle et notre vie à soutenir la CPI ». Les responsables israéliens ont tenté aussi d'obtenir le dessaisissement de la Cour, puisque la CPI, c'est dans ses statuts, n'intervient qu'en dernier recours. Ça, on avait parlé la semaine dernière à propos de la mise en examen de Netanyahou. Donc, intervient uniquement en dernier recours, ça veut dire qu'elle n'intervient que si l'État qui pourrait juger les choses qu'il a à juger ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire. Uniquement dans ces cas-là, la CPI intervient. Et donc, là, c'est les... Alors, un ancien membre du bureau du procureur de la CPI qui dit il y avait des échanges réguliers entre le bureau du procureur et le cabinet du Premier ministre. Ils essayaient de démontrer que la Cour n'avait pas de raison d'intervenir, qu'ils allaient mener eux-mêmes les enquêtes avec leurs propres services. C'est-à-dire qu'ils essayaient donc de jouer sur le fait qu'Israël étant un état de droit, ils étaient tout à fait capables de juger si, par hasard, des militaires israéliens avait outrepassé le droit international en termes de droits humains en particulier.
L'IGPN, on connaît.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, malgré tout ça, le 20 décembre 2019, Fatou Bensouda, donc la procureure de l'époque, annonce son intention d'ouvrir une enquête sur les crimes commis par Israël à l'encontre des Palestiniens. Alors, pour ouvrir cette enquête, elle demande au juge de lui préciser les limites du territoire sur lequel elle est compétente, puisque Israël elle-même n'a pas ratifié le statut de la CPI. Ça fait un truc où on ne peut pas vraiment juger les responsables israéliens, sauf s'ils interviennent dans un endroit sur un territoire où les statuts de la CPI ont été validés. Donc, comme la Palestine en tant que telle a adhéré à la CPI, dans la mesure où c'est en Palestine, normalement ça marche, mais en tout cas elle voulait vérifier. Donc à ce moment-là, elle demande au juge de prendre une décision à quels endroits vraiment géographiquement on peut compter que les crimes relèvent de la CPI. À ce moment, l'avocat général d'Israël dépose un mémoire de 34 pages à la Cour et où il dit la Cour n'est pas compétente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une source de la CPI explique au Guardian que vu le contenu du mémoire, c'était évident qu'ils avaient complètement accès au dossier qui à ce moment-là aurait dû être interne à la CPI. Bref, des histoires d'agents, quoi. Donc à ce moment-là, c'est les juges qui doivent prendre la décision. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un certain nombre de ces juges sont la cible de pression. Et que là, on parle de, ouvrez les guillemets, c'est encore une source de la CPI qui explique, des méthodes classiques de compromat. Compromat, c'est un terme des services secrets russes qui veut dire toutes les vidéos où on vous voit en compagnie d'une maîtresse et qu'on menace de les envoyer à votre femme, en gros.
Qu'on peut fabriquer aussi, je veux dire, si ça se trouve.
Et alors, c'est ça, tout à fait. Toutes les choses qui peuvent foutre votre vie personnelle en l'air, qui sont soit des trucs qu'on a chopés parce qu'effectivement, vous prenez de la cocaïne, vous avez une maîtresse ou que sais-je, soit des trucs que les services secrets savent très très bien fabriquer. Ceux qui étaient menacés pouvaient recevoir par exemple une photo d'eux en bonne compagnie, donc c'est bien ce qu'on dit. D'autres magistrats de la Cour pénale internationale ont été aussi approchés par leur propre gouvernement pour leur dire « Non mais là-haut, il faudrait peut-être vous arrêter ». Les responsables israéliens pressent leurs alliés de s'opposer à la Cour, donc tout ce qui est américain, français, allemand, enfin globalement occidentaux. En septembre 2020, à la suite de la décision de lancer une enquête sur les exactions commises par les troupes américaines en Afghanistan, Fatou Bensouda avait été placé sous sanction directement par l'administration américaine. C'était l'époque de Donald Trump. La mesure avait été comprise comme un avertissement sur ce qu'elle pourrait faire en Palestine. En tout cas, au moment où Trump a perdu les élections et que Biden est arrivé au pouvoir, il a annulé cette sanction contre Fatou Bensouda. En février 2021, les juges à qui on avait demandé cette histoire de trancher sur cette histoire de territoire, ils rendent leur décision. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller, parce qu'ils rendent une décision positive. Malgré toutes ces menaces, en fait, c'est une des choses qui ressort de cette enquête, c'est quand même que tous ces magistrats de la CPI ont l'air sacrément solides. C'est que malgré des menaces, malgré du chantage, malgré toutes ces choses-là, bah, ils font leur taf, quoi. Et donc, à ce moment-là, ils disent « Ouais, c'est bon, on peut y aller, y compris ce qui s'est passé à Jérusalem-Est, ça compte, et tout ça depuis 2014. » Et à partir du 7 octobre 2023, on met à l'intérieur de toute cette procédure, on fond ensemble les saloperies qu'a pu faire le Hamas le jour du 7 octobre et les opérations israéliennes après le 7 octobre. Alors, il a fallu toute cette histoire du 7 octobre, donc 1200 morts israéliens, les bombardements sur Gaza menés en représailles, qui ont fait aujourd'hui plus de 35 000 morts, pour que le procureur, qui donc entre-temps a changé, Karim Khan, se décide à relancer l'enquête de la CPI, qui pour l'instant, en vrai, depuis qu'ils avaient dit c'est ok d'enquêter, ils s'en étaient pas vraiment occupés. Fin novembre, Karim Khan se rendait à Israël et à Ramallah, où, ma foi, les renseignements israéliens ont suivi de extrêmement près sa visite. Parce que, comme pour Fatou Bensouda, le renseignement israélien surveille aussi les activités de Khan. Interrogé sur ces révélations, le service de presse de la CPI et en particulier de Karim Khan explique que, ma foi, il est conscient des activités proactives. C'est entre guillemets. Hein. Il est conscient des activités proactives de collecte de renseignements entreprises par un certain nombre d'agences hostiles, et donc là on parle réellement du Mossad, et dit qu'il met en œuvre des contre-mesures. Le procureur et la cour assurent protéger l'intégrité et l'indépendance de leurs enquêtes. Bon, les gens qui ont accès à tout ça en anglais, sur le Guardian, je crois qu'il faut avoir des codes, mais sur le site Plus 972, il y a un très très long papier qu'on peut lire gratos. Alors, tout ça pour revenir j'aimerais conclure en revenant à quoi sert et quelle est la crédibilité de la Cour pénale internationale. Puisque depuis sa création, la CPI n'a pratiquement inculpé que des Africains. Quelques autres dirigeants de pays pas africains, mais quand même toujours de pays qui sont pas exactement des pays du G7. Et, ma foi, Vladimir Poutine. Mais en dehors de Vladimir Poutine, aucun pays riche n'a jamais été inculpé en aucune manière. Aucun chef d'État occidental. Jusqu'à récemment, face à ce constat, c'était toujours possible de répondre que, bon, c'est vrai, la plupart des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ce genre de grande criminalité internationale, ça a lieu principalement dans les régions où les pays sont pas très riches, en Afrique et en Asie, quoi. C'était déjà une certaine vision de la réalité, parce que, par exemple, ça veut dire qu'on laisse de côté toutes les complicités occidentales, toutes les histoires d'alliances, de soutien matériel, financier, diplomatique, les ventes d'armes ou les dons d'armes à des moments. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, un massacre un peu gigantesque occupe la une des journaux dans une grande partie du monde. quand on dit que c'est un peu gigantesque, c'est vraiment que c'est pas juste une tuerie parmi d'autres, et c'est pas qu'une histoire de du poids symbolique que peuvent avoir Israël ou la Palestine pour de multiples raisons. Il y a déjà plus d'un mois, l'UNRWA comptait que plus d'enfants avaient été tués depuis le 7 octobre à Gaza que pendant les 4 années précédentes dans tous les conflits du monde entier. Donc on parle bien d'un gros truc.
Juste une petite parenthèse sur l'UNRWA. Il n'y a pas longtemps, il y a du coup le rapport sur le fait que les, vous savez, Israël avait accusé l'UNRWA de, d'être un agent du Hamas, quoi, et qui est, que le Hamas est massivement infiltré, infiltré cette agence. Israël n'a apporté aucune preuve et l'enquête là-dessus s'est avérée que rien de tout ça n'était vrai.
Oui, voilà.
Voilà, je trouve ça se précise, quoi.
Voilà, ça se précise, et donc une raison de plus pour trouver que les chiffres de l'UNRWA sont certainement relativement bons. Après, est-ce que c'est que... mais en tout cas dans l'idée.
Alors il y a de plus en plus d'experts militaires qui disent qu'ils sont sous-évalués. Notamment, il y a un type Guillaume Ancel là, qui fait le tour des plateaux télé. C'est un ancien spécialiste de l'armée française qui dont le métier était de préparer des bombardements d'artillerie ou d'aviation, et qui lui dit que on est au minimum à 60 000 morts et 200 000 blessés. Voilà.
Ok. Alors, au lieu des 35 000 qui sont officiellement décomptés.
En gros, lui il dit le Hamas est plus capable de compter. Donc les chiffres augmentent lentement parce qu'en fait tout est rasé à Gaza. Et il dit du coup les chiffres évoluent peu depuis. Et lui, en gros, il estime à 300 morts par jour vu. Et donc en gros, il se base sur la quantité d'armes qui est balancée sur la ville. Sur le. Enfin, en gros, c'était son métier de savoir si en balançant une bombe de telle taille avec telle densité de population dans tel type urbain, combien de victimes ça pourrait faire. Et il dit si j'avais fait si je faisais mes calculs pour avec ce que j'ai comme information, je tomberais sur au minimum 60 000 morts et 200 000 blessés.
Voilà, donc là on parle, comme je disais, on parle pas d'un massacre anecdotique, mais qui ne vaudrait que pour la force symbolique de ce conflit. On parle réellement d'un gros massacre. Du coup, cette histoire de justice internationale, alors. C'est vrai que nous, de nos places, on n'est pas forcément sûr de tout ce qu'il faut en penser, mais on peut quand même malgré tout imaginer que c'est pas si mal qu'il y ait des institutions qui dépendent d'aucun État en particulier et qui puissent juger tous ces grands crimes de masse, quoi. Si les dirigeants du monde veulent que tout ça garde un tout petit peu de crédibilité, il va quand même falloir que la CPI ait réellement les moyens de faire son boulot sur Israël. Parce que si pour la première fois que des membres d'un gouvernement d'un pays occidental, c'est-à-dire un pays qui est ni africain, ni asiatique, ni russe, et quand je dis occidental, bien sûr, c'est pas une question de géographie, c'est une question de pouvoir, d'alliance, tout ça. On considère qu'Israël est un pays occidental. Si la première fois que des membres d'un gouvernement d'un pays occidental sont inculpés, les États-Unis et éventuellement une grande partie des pays occidentaux restent, ma foi, potes, alliés, soutien avec les inculpés, ça va faire sérieusement tâche. Genre comme si par exemple en France des ministres étaient poursuivis par la justice et que le reste du gouvernement leur accorde publiquement sa confiance. Ouais, enfin en tout cas tout ça pourrait finir par laisser penser que toutes ces histoires de justice c'est quand même bien toujours uniquement le droit du plus fort.
Et juste pour faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment à Rafah, donc l'armée israélienne continue aujourd'hui de bombarder la ville du sud de la bande de Gaza. Les chars de Tsahal sont entrés dans plusieurs secteurs de la ville hier, selon plusieurs témoins sur place. Et hier, la défense civile gazaoui a annoncé la mort de 21 personnes dans une frappe israélienne. Deux jours après le bombardement, on a largement parlé de partout, mais quand même, qui avait provoqué la mort de 45 personnes et en blessant 259 dans un camp de réfugiés. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans le monde pour dénoncer ces massacres supplémentaires, notamment à Lyon lundi soir et à Paris plusieurs soirs de suite. Rassemblements et manifestations assez massives pour Paris à Paris qui ont été assez fortement réprimés par les flics.
À Lyon lundi soir et mardi soir.
Et puisqu'on en est aux précisions, les Américains avaient dit aux Israéliens de surtout pas attaquer Rafah. Ils ont attaqué Rafah, donc les Américains ont dit non, mais ce qu'on voulait dire c'est n'envoyez surtout pas de contingent massif de troupes. Et le lendemain, ils ont dit qu'ils allaient envoyer des contingents massifs de troupes. Donc
mais
là, vraiment,
là, aujourd'hui encore, Joe Biden a dit non, mais ce qu'ils font, c'est pas vraiment une opération terrestre.
C'est ça, vraiment, ils sont en roue libre et même leurs alliés n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, quoi.
Canu Info.
Du mercredi.
Et retour en Europe, et quand certaines actions sont rendues illégales par le droit, il existe une ficelle assez simple, faire un pacte permettant de contourner ses propres règles. C'est en substance l'objet du nouveau, alors je dis nouveau mais c'est le du dernier parce qu'on en a quand même plusieurs fois parlé, pacte migratoire européen décrypté par Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure de droit public à Lyon 3 dans Alternatives économiques, dont j'ai principalement tiré mes informations de cet article. Ce pacte qui devrait en rentrer en vigueur dans 2 ans, présenté comme il est de bon ton en ce moment, avec d'un côté une réglementation plutôt solidaire et de l'autre plus de fermeté. C'est le fameux gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, formule utilisée par Darmanin pour justifier la nouvelle loi immigration en France, qui était indépendante de ce pacte, mais quand même assez concomitante tout de même, et qui était passée à l'Assemblée avec les voix du Rassemblement National, rappelons-le. Revenons en Europe, ce texte présenté comme équilibré est déjà accusé d'être trop mou par 15 pays. La Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Italie, Chypre, Malte, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Finlande. Ça fait quand même un paquet de pays. Petit rappel historique, l'Union européenne, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'Union européenne, rassurez-vous, s'est équipée d'un premier pacte asile entre 2001 et 2005, puis d'un second entre 2011 et 2013, puis au moment de ce que Marie-Laure Basilien-Guinche nomme la crise de l'accueil des exilés, il y a eu la tentative d'un troisième pacte qui n'a pas abouti. Celui adopté en décembre 2023 est donc issu de ce qui a été vécu comme une crise migratoire par les États de l'Union. De l'aveu même de la professeure de droit, ce pacte est colossal, difficilement intelligible, d'une extrême complexité, dense et détaillé à l'excès. Donc, c'est-à-dire que la personne est quand même plutôt en pointe sur le domaine. Le but, ne laisser place à aucune situation qui pourrait passer entre les mailles du filet. Juridiquement, le pacte est composé de 5 règlements. Et ce qui le différencie des directives européennes et par rapport au règlement européen, c'est que ces derniers peuvent s'appliquer directement sans qu'il n'y ait de transposition juridique interne des États membres. Là, vous serez gentil de ne pas poser de questions sur cette phrase. Mais voilà, en gros, voilà, c'est le règlement, il est signé, il est validé, hop, ça s'applique sans qu'il y ait besoin de modifier le code pénal français, par exemple. Ce qui a donc pour effet d'harmoniser les droits en matière d'asile et migration dans toute l'Union européenne. Et donc, là, on imagine que c'est pas à la faveur des personnes qui demandent l'asile. Mais non, le but, c'est bien de limiter grandement les dispositifs nationaux d'asile éventuellement plus favorables. Donc, déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça les limite grandement. Quand le journal pose la question de l'équilibre du texte entre fermeté et solidarité, la réponse de Marie-Laure Basilien est très claire. Je la cite, c'est totalement faux, la dimension solidaire du pacte est tout à fait mineure, alors que la fermeté y est omniprésente. Alors, pour la partie répressive, 4 éléments se distinguent dans le texte. La première, c'est l'obligation de la mise en place de procédures aux frontières extérieures. Jusqu'à maintenant, elles étaient optionnelles et finalement pas très courantes, même si elles existaient. Là, ce type de procédure sera grandement généralisé, avec une procédure d'asile traitée dans un délai très contraint et avec des garanties nettement amoindries. Donc cette idée de frontières extérieures et de procédures extra-européennes, ça fait très longtemps que l'Europe veut les mettre en place, et ça fait très longtemps que les frontières de l'Europe s'étendent au-delà du territoire européen. Ce que dit la professeure de la manière dont est considérée les frontières, je la cite, « La frontière doit être comprise dans toute son épaisseur, elle s'étend dans l'espace et se répand dans le temps au gré des textes normatifs venant exciser le territoire national par la création de fictions de non-entrée. » Elle donne un exemple pour illustrer ça. « Un ressortissant, par exemple, de pays tiers interpellé sur le territoire français en situation irrégulière, sans que puisse être prouvé qu'il ait été contrôlé lors du franchissement des frontières extérieures, pourra être placé dans la procédure de filtrage puis la procédure d'asile à la frontière. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est pas parce qu'on a réussi à passer la frontière qu'on est tranquille, on pourra être ramené. Pour mettre tout ça en pratique, il y a fort à parier que de plus en plus de centres frontières de l'Union Européenne seront construits, et je parie mon billet, donc là c'est moi qui parle quand même, que ces nouveaux centres seront présentés comme des progrès et beaucoup plus respectueux des campements de migrants que connaissent les pays comme la Grèce et dont le commissariat des droits européens, je sais pas si c'est le commissariat, mais dont la Cour européenne des droits de l'homme a maintes fois sanctionné. C'est finalement, on imagine, allez, on parie encore, un peu la même chose que ce qui s'était passé en France pour la création des centres de rétention que la gauche avait créé. C'était au final un apport bénéfique pour les gens. C'était au moment où il y avait de grands campements et où on entassait les gens en attendant de pouvoir les expulser. Bah là, on s'est dit, bah non, mais là, c'est quand même pas humain. On va créer des endroits où ils seront mieux accueillis. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les centres de rétention. Deuxième élément notable dans la loi, la diminution du droit des migrants jusqu'à leur suppression s'ils ne respectent pas les obligations qu'on leur impose. Par exemple, les exilés devront rester dans les pays de première entrée par lesquels ils sont pénétrés sur le territoire de l'Union. Donc c'est en gros ce qui ressemble à la loi Dublin actuellement, s'ils ont enregistré une demande d'asile. S'ils le quittent, la demande d'asile sera considérée comme retirée. Voilà, c'est fini, ta procédure. Et on imagine, du coup, tu peux pas en reposer une dans un autre pays. Les délais de recours seront également raccourcis à la hache. Les délais de recours contre les refus d'entrée ou les décisions de transfert Dublin sont raccourcis d'une à trois semaines pour les décisions de transfert Dublin contre trois semaines à un mois dans les autres cas. Troisième point important, l'externalisation, autrement dit sous-traiter à des pays tiers la gestion migratoire européenne. Ça se fait déjà beaucoup, le but étant de l'amplifier, d'amplifier les réadmissions et ce qu'ils appellent la prévention de la migration. Si ces deux aspects se pratiquent déjà, là on légifère le droit européen à faire ce qu'ils appellent arrangements. D'un côté, il y a donc les accords internationaux en bonne et due forme, et de l'autre, il y a les petits arrangements que personne ne contrôle. Le pacte valide donc ces petits arrangements. Pour la professeure de droit, je la cite, la prévention de la migration pose un gros problème de violation de droit international qui, dans l'article 13 du pacte international sur les droits civils et politiques, affirme que le droit à chacun et chacune de pouvoir quitter le territoire de tout pays. Donc c'est quand même une dimension, je trouve, qu'on capte quand même difficilement, c'est ce truc de dire, en fait, c'est pas au bon vouloir des autres pays d'accueillir des gens, c'est qu'en fait, juste c'est un droit fondamental de se dire, en fait, j'ai le droit de quitter mon pays pour telle ou telle raison, mais en fait, c'est un droit qui est inaliénable, quoi. Dans ce texte, donc dans le texte du pacte, pas dans l'article 13, on voit se dessiner la volonté de l'Union européenne de détendre ses frontières le plus en amont possible. La frontière européenne pour le volet migratoire, parce que par exemple c'est pas vraiment le cas pour la partie financière où là la frontière est plus mince voire inexistante, n'est plus une ligne sur une carte, mais un concept qui s'étend dans les États tiers et rentre dans les États membres avec ces histoires de réadmission possibles dont je parlais juste avant. Dernier point notable de fermeté, c'est l'obsession pour l'efficacité de la politique de retour. Pour le professeur de droit international Jem Hatteray, qui est cité par l'autre professeur de droit qui est interviewé dans l'article, je le cite donc, le pacte est un instrument de négation du droit d'asile, un outil de contournement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Convention de Genève sur les réfugiés. Fin de citation. Concernant l'applicabilité du pacte pour la professeure, même si les règlements sont directement applicables, ils vont nécessiter quand même des adaptations législatives dans les pays. Le pacte lui paraît irrationnel, aussi bien en droit qu'en pratique. Pour elle, peu de chance, ceci dit, que des parties du pacte soient infléchies avec la crainte de la montée de l'extrême droite en Europe.
Oui, c'est ça. Tout ça fait penser que ça va le coup aux dernières élections européennes, que l'extrême droite est quand même massivement plutôt perdu ces élections.
Ça valait le coup, mais en même temps, elle, ce qu'elle raconte dans l'article, c'est que elle dit en gros, il y a sûrement trois raisons de ce pacte, notamment une, donc il y a répondre à cette histoire de trucs que les pays ont appelé la crise migratoire en 2015, mais il y a aussi le truc de Ursula von der Leyen de faire un espèce de pacte politique pour contrer, enfin dans l'idée de contrer l'extrême droite en appliquant un pacte qui a été largement validé par des pays d'extrême droite. Mais du coup.
Contre l'extrême droite en faisant une politique d'extrême droite.
Ouais, bah, c'est un peu la même chose que ce qui.
Comme ce que fait Macron, quoi.
Oui, voilà, c'était un peu le même truc que ce qui s'était passé en France avec la loi migration. Et effectivement, ça, ça a été un peu du copier-coller en Europe. Sauf que là, ça a mis 9 ans, mais ça aboutit à peu près aux mêmes choses.
Canu Info. Du mercredi.
Et du coup, moi, dans la continuité, j'ai une bonne nouvelle. Ah! Ils nous ont cassé les autoplay et du coup c'est n'importe quoi. Il y a une bonne nouvelle quand même. La Cour constitutionnelle avait été saisie par une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, dans le cadre des discriminations autour de l'aide, comment on dit, de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que les personnes migrantes ou, enfin plutôt illégales en France, n'avaient pas le droit à l'aide juridictionnelle sur tout un tas de questions. Il y avait quelques exceptions, les mineurs y avaient le droit. Être mise en cause dans une partie civile dans une procédure pénale. Les litiges autour du code de l'entrée et du séjour, voilà, mais notamment par exemple, si c'est un litige autour d'un conflit de travail, bah, on n'avait pas le droit à l'aide juridictionnelle quand on était.
On n'avait plus le droit. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas depuis l'aide juridictionnelle, avant tout le monde y a le droit, puis il y a eu des trucs qui ont réduit ce droit-là.
Et du coup, il y a des trucs qui vont déréduire ce droit-là, puisque la cour constitutionnelle, pardon, dans son arrêté 2024-191 machin du 28, enfin de hier en tout cas, a dit que fallait arrêter ça et que du coup c'était une rupture nette d'égalité entre les gens. Et que du coup, c'est pas bien la rupture nette d'égalité entre les gens, et qu'il fallait donc arrêter. Voilà.
Et grâce à toi, on aura eu au moins une bonne nouvelle.
C'était la bonne nouvelle. Je me suis dit que ça changeait. Et du coup, quelqu'un présente le morceau pendant que je bidouille pour que l'ordi reparte.
Présenter le morceau, et c'est un morceau. Je veux bien le présenter.
C'est un morceau que t'as écouté un sacré paquet de fois à une époque.
Alors oui, on l'a écouté pas mal. Oui, c'est un morceau de Tikkun Jaffa Coli qui s'appelle Plus rien ne m'étonne. C'est contre-intuitif parce que la phrase qui répète le plus dans la chanson, c'est « Ils ont partagé le monde ». Et voilà, c'est un petit cours de géopolitique, on va dire.
Ils ont partagé le monde. L'Arménie, si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, aïe, 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 plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. We'll be right back.
insulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandin. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Et vous êtes bien mercredi à 19h45 et non pas dimanche après-midi, comme le reggae peut le faire penser sur cette antenne.
Oh, c'était ça la blague.
Le mec connaît toutes les émissions de Radio Canu.
Pas tout à fait, j'ai vérifié justement sur le programme.
On a droit à une petite musique, quoi. Faire un petit point sur la résistance kurde. Hier, les combattantes du YJA Star, troupe des femmes libres, groupe de combattantes affiliées au PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, ont posté des images de bombes chimiques larguées sur les zones de guérilla kurde par la Turquie. Suite au communiqué du groupe de combattantes qui résiste toujours dans les montagnes du nord de l'Irak, un journal italien Ecolo a fait un article sur l'utilisation, une fois encore, de ces armes interdites par la Turquie. Voilà comment se termine l'article italien. Alors que des gens meurent à Gaza et en Ukraine, nous avons vite oublié les Kurdes, qui ont été tués pendant des dizaines d'années au nom de la même liberté pour laquelle d'autres peuples meurent également. Il s'agit de notre propre liberté qu'un de nos pays alliés empoisonne avec des armes chimiques. Impunis, ignorés, sûrs que nous détournerons les yeux et ne sentirons pas la puanteur chimique d'une guerre colonialiste, d'extermination et d'invasion. Quant au Rojava, au nord-est de la Syrie, toujours sous embargo de l'état central de Bachar el-Assad, il fait face à une augmentation d'attaques tous azimuts du gouvernement turc qui continue à bombarder la région, et ce, de manière toujours plus soutenue. Il bombarde notamment les zones agricoles, qui constituent une expérience écologique et économique qui permet de nourrir les populations avec des aliments naturels, sans produits chimiques et à moindre coût. Bien sûr, les administrations et les civils sont aussi touchés. Le mouvement pour une société démocratique kurde appelle donc la communauté internationale à faire pression sur la Turquie pour faire cesser ses attaques. Le mouvement appelle aussi à des actions internationales pour faire connaître et dénoncer ces attaques. Le mouvement n'oublie pas, bien sûr, de saluer aussi la résistance dont font preuve les populations locales face à l'armée turque et à ses mercenaires. La Turquie intensifie parallèlement donc ces attaques et ces bombardements contre les forces armées du PKK dans les montagnes du nord de l'Irak. Forces armées du Parti des Travailleurs du Kurdistan qui affirment ce lundi avoir abattu un drone turc. Un de plus, après avoir annoncé en mars pour la fête de Névroz en avoir abattu une quinzaine. On rappelle que si les drones turcs font la fierté de l'OTAN et de l'Ukraine, qui en vantent l'efficacité contre l'armée russe, ils sont aussi responsables de la mort de plusieurs centaines de Kurdes, civils pour la plupart.
Inédite de l'émission Idées Noires qui vient éteindre les lumières et pénétrer dans les studios. Nous allons malgré tout essayer de vous donner un petit agenda que de toute façon ils vous redonneront le même, je pense, dans 10 minutes.
Mais samedi, franchement, samedi, c'est pas le moment de chômer. Il y a une manifestation contre l'Europe forteresse et pour un monde sans frontières le 1er juin à 13h au métro Guillotière. C'est la journée de mobilisation contre la criminalisation de la migration et des personnes sans papiers racisées et immigrés. Donc c'est à 13h et le cortège rejoindra sûrement.
Rejoindra la manifestation pour la Palestine à 15h à Bellecour.
Voilà.
D'ailleurs, t'as fini ou...
Moi j'ai fini.
Okay. D'ailleurs, rassemblement en cours, place de la Comédie, pour en soutien à la Palestine maintenant. Puisqu'il était annoncé à 19h. Il y aura aussi ce samedi à partir de 20h à l'Illégalité. Une soirée de soutien pour les... Oui, justement, ça tombe bien, une soirée de soutien pour les médics. Donc, apparemment, t'aurais besoin d'aller en voir, toi. Donc voilà, crêpes, bar, DJ set, voilà, c'est annoncé à 20h.
Des consultations gratos
c'est possible, je sais pas.
Ça va finir un exercice.
DJ set, hip-hop, trap, afro, dance floor, industrial, entrée à prix libre, don de matériel de médic et tout ça. Du coup, à 20h à l'Illégalité, ce samedi.
C'est bon, vous avez plus rien.
Moi j'ai tout.
Qu'est-ce qu'il a mon micro? Bon, et ben.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.
Et puis voilà.
À bientôt.
À bientôt.
Radio Canu.
C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Merelo la mayo chumalinque zompeyo genialie Pabnul que rode y zompeyo gandulu O corvatu bayo mercati mononon